Every day. Anywhere. Anytime. The Digital Gospel Channel. Ebenezer International. Your station.
Amis à l'écoute, je vous dis bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Flash sur la Bible. Chers amis des ondes, je vous dis une nouvelle fois bonjour et merci d'accepter de faire avec nous ce voyage régulier dans le monde de la Bible, ce merveilleux livre qui contient le plan de notre Créateur pour nos vies. C'est votre ami podcasteur Franck Doristil qui vous parle depuis la France métropolitaine dans le Val d'Oise et j'ai l'assurance que ce moment nous sera très profitable puisque nous allons voir ensemble de nouveaux livres des Saintes Écritures. Il s'agit de celui du prophète Ésaïe ainsi que celui du prophète Jérémie. Je vous rappelle que ce programme est une courtoisie de Bible Ouverte qui est un site de l'association Paroles Certaines soutenue par l'Association des Églises Action Biblique de Suisse. À la fin de l'émission, nous vous en donnerons plus d'informations. Ladies and gentlemen, dear listeners and friends of the Digital Gospel Channel, it's a great joy to know that you are listening to this program today, conceived for your spiritual blessing. It's a new edition of Flash on the Bible, Flash sur la Bible, a very special program dedicated to study the Holy Scriptures, God's Word for our life. I'm your friend, podcaster Frank Lewis, still speaking. And don't forget to tell all your friends and relatives to join us at www.frankradio.podomatic.com. www.frankradio.podomatic.com. And when you will be on this site, we'll find a special link which will help you to go on our new website. In our program today, we will study two new books of the Bible, Isaiah and Jeremiah. Even though the program will be in French, as I used to say, I think that it's a good possibility for all of you who want to practice la langue de Molière, the French language. May God bless you richly. Toutes amis qui écoutent, moi dis nous bonjour et moi dis nous tout merci parce que nous accordons un petit temps ça pour nous capables chita ensemble. Étudier la Bible, parole bon Dieu. Nous parlons avec aujourd'hui à deux autres livres. C'est le livre prophète Ésaïe avec le livre prophète Jérémie. Programme ça, c'est en courtoisie, une société qui n'a payé la Suisse, qui est les Bibles ouvertes. Et c'est grâce à lui-même, nous joignons le programme ça pour permettre d'entrer plus fond dans la connaissance, parole bon Dieu. Nous espérons nous parler passer un bon petit moment ensemble. Et moi, voyez, beaucoup qu'une chaîne salutation à tous les amis, compatriotes, moi, t'attendais. Et moi, connais au remède langue, maman, en pile. C'est ça qui fait un petit coin, ça, pour me voyer mon sous salutation, ça, pour. C'est pour bon Dieu béni, moment, ça, nous, pour passer ensemble, à étudier parole, qui c'est seule nourriture, n'a nos besoins. Ces amis, on fait un doux style qu'on parle avec vous depuis pays la France. Et moi, dis bon Dieu merci. Pour belle occasion ça à Libanon pour nous capables de contrer ensemble. Je vous rappelle, chers amis à l'écoute, que vous êtes sur la radio chrétienne Ebenezer International à l'heure de Flash sur la Bible. Avant d'accueillir l'équipe de Bible Ouverte, écoutons l'artiste québécois Luc Dumont dans un chant intitulé « Lumière du monde ». Bonne écoute à toutes et à tous. Vous écoutez Flash sur la Bible.
Tu es venu pour sauver
Vous écoutez Flash sur la Bible. C'est notre Seigneur Jésus lui-même qui l'a affirmé. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres. Et plus loin, il nous a rappelé que nous aussi, ses serviteurs, nous sommes lumière. C'est sur cette dernière note que nous allons accueillir nos amis de Bible ouverte pour la première partie de l'étude du jour.
Le prophète Ésaïe. Le ministère du prophète Ésaïe a duré près de 60 ans. Le premier verset de son livre nous situe quant à l'époque.
Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda.
Ésaïe a donc parlé de la part de Dieu environ de 760 à 700 avant Jésus-Christ. Ozias, le premier des rois de Juda mentionné en Ésaïe 1:1, était intègre au début de son règne. Mais lorsqu'il est devenu puissant, l'orgueil s'est emparé de lui. Par prétention, il est entré dans le temple pour y offrir des parfums, ce qui était réservé exclusivement aux sacrificateurs. Aussi l'Éternel l'a-t-il frappé de lèpre, c'est 2 Chroniques 26 qui nous rapporte ce récit. Puis, son fils Jotham a occupé le trône de Juda. Pendant son règne, le roi d'Israël, c'est-à-dire des 10 tribus du Nord, et le roi de Syrie se sont ligués pour l'attaquer et assiéger Jérusalem, mais sans succès. Les chapitres 7 à 9 d'Ésaïe relatent ces événements. Après Jotham, Akaz. Il a recherché les faveurs du roi d'Assyrie et a laissé l'idolâtrie s'installer à Jérusalem, allant jusqu'à élever un autel païen en plein temple de l'Éternel, en s'inspirant du modèle qu'il avait vu à Damas, 2 Rois 16. Mais avec Ézéchias, son fils, les choses changent. Au premier mois de son règne, Ézéchias entre dans la maison de l'Éternel pour la réparer, il purifie le temple, rétablit le culte à l'Éternel, et un véritable réveil s'empare de la nation qui revient à son Dieu. Il était temps. Sanchérib, roi d'Assyrie, menace Jérusalem. Ézéchias devient alors l'âme de la résistance. Ils consultent Ésaïe le prophète, et ensemble, ils adressent de ferventes prières à Dieu, qui les exauce de façon spectaculaire. L'armée assyrienne est anéantie par un cataclysme foudroyant et le roi d'Assyrie doit s'en retourner dans son pays où il est assassiné par ses propres fils. Cependant, si la puissance politique de l'Assyrie décline, il en est une autre qui monte, celle de Babylone. Elle envoie une délégation à Jérusalem féliciter Ézéchias de ses succès. Pour Ésaïe, ce sera l'occasion de faire connaître à Juda la sombre perspective de la captivité à Babylone qui surviendra un peu plus d'un siècle plus tard. Pourquoi évoquer ici les circonstances historiques de ces quatre règnes successifs? Pour que nous comprenions mieux la richesse et la variété des écrits d'Ésaïe. Il s'est adressé à Juda, chapitre 1 à 12, et aux nations environnantes, chapitre 13 à 27. Il a annoncé l'avenir d'Israël, chapitre 28 à 35. Puis, après la parenthèse historique consacrée au règne d'Ézéchias, chapitre 36 à 39, il a présenté le Messie dans ses souffrances et dans sa gloire future, chapitre 40 à 66. Il est possible qu'Ésaïe ait encore été le témoin de la profonde déchéance qui a caractérisé le règne de Manassé, ce fils indigne d'Ézéchias, qui a entraîné Juda dans l'abandon de Dieu et dans l'idolâtrie. Manassé a aussi persécuté les envoyés de Dieu. La tradition juive prétend qu'il aurait même fait subir le martyre à Ésaïe. Il l'aurait enseveli vivant dans un tronc d'arbre où son corps aurait été scié en deux. Aucun texte de l'Ancien Testament ne confirme ce fait, mais une phrase de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 37, pourrait se référer à cet horrible supplice. Ésaïe a connu la souffrance, et c'est sans doute parce qu'il a souffert lui-même qu'il a eu révélation des souffrances de Christ et qu'il a pu les décrire avec tant de précision. Au cours de son ministère long et mouvementé, les circonstances l'ont identifié lui-même à l'opprobre, au rejet et au tourment de Jésus-Christ, l'homme de douleur. C'est ainsi qu'il a pu préparer le peuple juif à la venue du serviteur souffrant. C'est d'ailleurs le thème essentiel de plusieurs de ses prophéties, et en particulier de ce merveilleux chapitre 53 auquel nous reviendrons tout à l'heure. Pour Ésaïe, la révélation du Fils de Dieu éclipse toute autre considération. Ainsi, le bouleversement militaire du temps de Jotham lui fournit l'occasion de prédire la naissance miraculeuse du Fils de Dieu dans le sein de la Vierge.
« Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ».
Ésaïe 7, 14. Plus loin, il reprend le thème de la naissance de Christ.
« Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. »
Pour décrire ce que sera ce fils lorsqu'il règnera ici-bas.
« On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. »
Ésaïe 9, 5 à 6. Au premier verset du chapitre 32, Ésaïe annonce le règne messianique en ces termes.
« Alors le roi règnera selon la justice, et les princes gouverneront avec droiture. »
Mais c'est surtout dans la deuxième partie du livre d'Ésaïe, chapitre 40 à 66, que les prophéties au sujet de Jésus-Christ sont les plus nombreuses. Il sera sauveur, 41-14, serviteur de l'Éternel, 42-1, rédempteur, 49-26, consolateur, 51-12, homme de douleur, 53-3, agneau muet, 53-7, dominateur des peuples, 55-4. Ésaïe a très souvent parlé de Christ, mais il a aussi annoncé l'avenir d'Israël et des nations. Il a même prédit que Dieu susciterait un homme appelé Cyrus qui ordonnerait la reconstruction de Jérusalem et du Temple, chapitres 44 et 45. Prophétie extraordinaire si l'on songe que ce Cyrus, empereur perse, est entré dans l'histoire 150 ans après la mort d'Ésaïe. Il est vrai que certains critiques n'ont pu admettre qu'Ésaïe ait annoncé le nom même de Cyrus plus d'un siècle avant sa naissance. Et ils en ont déduit que la seconde partie du livre d'Ésaïe, c'est-à-dire les chapitres 40 à 66, ont dû être rédigés par un ou plusieurs écrivains portant peut-être le nom d'Ésaïe, mais ayant vécu après l'exil. Et c'est ainsi qu'est née la légende des différents Ésaïe. Mais n'était-ce pas se méprendre sur un fait essentiel? Les écrivains sacrés étaient au bénéfice de l'inspiration divine. Or, il n'était pas plus difficile au Saint-Esprit de communiquer à Ésaïe le nom de Cyrus, plus de 150 ans avant sa naissance, que de lui révéler les souffrances que Christ a endurées 6 siècles plus tard. Rangeons-nous donc sans hésiter au point de vue du Fils de Dieu et des apôtres, pour qui, de toute évidence, il n'y avait qu'un seul Ésaïe. Le Nouveau Testament cite souvent Ésaïe, et, dans son évangile, l'apôtre Jean relève 2 passages du prophète, l'un tiré du chapitre 6, l'autre du chapitre 53, puis il montre que les 2 passages sont sortis de la plume d'un seul et même auteur, en ajoutant
« Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit la gloire de Christ et qu'il parla de lui. »
Pour terminer ce bref aperçu du livre d'Ésaïe, j'aimerais que nous revenions ensemble au chapitre 53 déjà cité. Le prophète y présente le serviteur souffrant, le Fils de Dieu venu sur terre pour nous sauver.
Il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance.
Puis il a prophétisé l'accueil que l'humanité réserverait à Jésus-Christ.
Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié.
Ésaïe a dévoilé ensuite le caractère expiatoire des souffrances de Christ et de sa mort.
Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche.
Enfin, le prophète a entrevu par la foi ce qui devait découler de la croix du calvaire, la résurrection de Christ et le triomphe qui en est la conséquence.
Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants.
Ces instants sont trop courts pour nous permettre de lire en entier ce merveilleux chapitre 53 d'Ésaïe. Mais vous avez probablement une Bible. Ouvrez-la donc à ce passage, lisez-le, méditez-le, puis placez-vous vous-même dans le récit.
Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui, sur Christ, l'iniquité de nous tous. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui.
Comment un châtiment peut-il donner la paix? Parce que Christ a été puni, je ne serai pas puni. De ce fait, ce châtiment subi par Christ devient le moyen de me donner, de vous donner la paix. La paix parce que Christ a pleinement satisfait la justice divine. La paix parce que Christ nous offre le pardon. La paix parce que Christ nous réconcilie avec Dieu. La paix parce que Dieu fait naître la vie éternelle dans le cœur du coupable dès l'instant où il accepte son salut. Et cette paix véritable est une certitude que vous communique Ésaïe. Je pourrais même dire que vous communique l'Évangile selon Ésaïe, rédigé il y a 26 siècles. Voulez-vous croire cela, tout simplement ?
Vous écoutez Flash sur la Bible. Prenons notre première pause musicale en écoutant l'artiste sud-africain Will Montfried Weeks, Stand Tall.
Gotta believe that I can make it. Gotta believe I'm going through. Gotta receive what I've been given. Gotta believe my time is due. I've got to believe that this world is my own, that there is life ahead. I gotta stand tall in the midst of it all. Tall in the midst of it all. I gotta stand tall in the midst of it all. Gotta press on with a higher calling, reaching those things ahead of me. I gotta run till the race is finished. I gotta press on the upward way. I gotta stand tall in the midst of it all. Tall in the midst of it all. I gotta stand tall. Tall in the midst of it all. Tall in the midst of it all. 'Cause I'm greater than the challenges I have to face each day. Taller than the mountains that would come to block my way. Higher than the valleys through which I have to go. There's a power within me causing me to know. Said I gotta stand tall, in the midst of it all. Tall, in the midst of it all. I gotta stand tall, in the midst of it all. Tall, in the midst of it all. I gotta stand tall,
in the midst of it all.
I gotta
tall, in the midst of it all.
of it all. So tired,
in the midst of it all.
Greater is he that is in me than he that is in the world. And that's the reason why I can say I can stand
in the midst of it all.
Vous écoutez Flash sur la Bible. C'était Wilmot Friedrichs dans Stand Tall, un chant dans lequel il nous encourage à tenir bon en dépit des difficultés. Abordons maintenant la deuxième partie de notre programme.
Le prophète Jérémie et les lamentations de Jérémie. Près d'un siècle s'était écoulé depuis la mort du prophète Ésaïe et tout se dégradait en Juda. Mais alors, Dieu préparait son porte-parole pour une période cruciale de l'histoire de son peuple, celle de la prise de Jérusalem et de la captivité à Babylone. Dieu avait choisi Jérémie avant sa naissance. Nous lisons.
« Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. »
Jérémie 1, 5. Jérémie a grandi dans une famille de sacrificateurs. Dieu lui a inspiré ses premiers messages au temps du roi Josias, quelques années avant que le livre de la loi ait été trouvé dans le temple de l'Éternel. Peut-être connaissez-vous le récit de cette découverte qui avait, par ses conséquences, secoué tout Juda. Les consciences avaient été réveillées et Josias avait proposé une grande célébration de la Pâque de l'Éternel. Vous lirez cela dans 2 Rois, chapitres 22 et 23. Les rois qui ont succédé à Josias se sont éloignés de l'Éternel et ont fait ce qui est mal à ses yeux. Jérémie est alors devenu le témoin de la profonde décadence morale du peuple. C'est pourquoi il a été appelé à jouer le rôle d'une sentinelle pour Dieu, en avertissant les impies et en annonçant les raisons des justes châtiments divins. On ne proclame pas la vérité sans réveiller l'opposition. Jérémie est un homme qui a beaucoup souffert. Suivons-le dans les péripéties de sa carrière mouvementée. Il pleure, chapitre 9, verset 1. Il reçoit des coups, chapitre 20, verset 2. Tout le monde se moque de lui, chapitre 20, verset 7. Puis, il est menacé de mort, chapitre 26, verset 8. Et finalement, jeté en prison, chapitre 37. À la fin de sa vie, on l'emmène de force loin de sa patrie, chapitre 43. Mais en toutes ces situations critiques, Jérémie est demeuré la sentinelle de l'Éternel, appelant le peuple à la repentance. Il a exhorté les rois et les chefs, il a dénoncé les actes d'impiété, il a prédit l'imminence du jugement divin, et il n'a jamais reculé devant les risques que comportait une proclamation si impopulaire. Pour tenir le coup face à tant d'adversaires, il devait être bien convaincu de la vocation que Dieu lui avait adressée au départ.
« Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. »
Jérémie, chapitre 1er, versets 18 à 19. Le livre de Jérémie peut se diviser en deux grandes sections, les chapitres 1 à 29, où Jérémie s'afflige devant Dieu, livre un combat pour lui et avertit ses compatriotes, tandis que tout se détériore, et deuxième section, les chapitres 30 à 52, où le prophète poursuit son ministère sous la menace de la torture et alors qu'il assiste impuissant aux déportations successives du peuple de Juda en Babylonie. Jérémie a tenu ses discours à la porte du temple, chapitre 7 à 10, ou dans la cour extérieure de ce temple, chapitre 26. Il s'est adressé tour à tour au peuple, chapitre 2 à 6 et 11 à 12, ou à ses conducteurs spirituels, chapitre 23. Il a parlé au moyen de paraboles, ce langage biblique qui appartient au temps de désobéissance et d'apostasie. C'est ainsi que la ceinture de lin, chapitre 13, le vase du potier, chapitre 18, les deux paniers de figues, chapitre 24, la coupe de la colère, chapitre 25, et les différents joues, chapitre 27 et 28, étaient des signes annonciateurs d'événements tout proches ou bien des signes annonciateurs des châtiments qui allaient bientôt frapper Judas. Cependant, si Jérémie prévenait ses compatriotes de l'imminence de la captivité, il conservait toujours sa confiance dans la miséricorde du Tout-Puissant. Il savait que le jugement devait venir, mais il savait aussi que ce jugement serait mesuré. La captivité était inévitable, mais elle ne durerait que 70 ans, chapitres 25 et 29. En effet, l'histoire a démontré qu'après cette période, ceux qui l'ont voulu ont pu retourner à Jérusalem. La deuxième partie du livre, chapitres 30 à 52, correspond aux années les plus difficiles du ministère de Jérémie. Mais il a gardé une attitude de foi et d'espérance. Au moment où les Chaldéens ont assiégé Jérusalem et emmené Juda en captivité, il a déjà entrevu le retour du peuple en sa patrie, chapitres 30 à 35. Que le livre de sa prophétie soit brûlé, que Jérémie soit enfermé dans la prison, puis jeté dans une citerne, enfin, qu'il soit emmené de force en Égypte, il n'a jamais perdu espoir, chapitres 36 à 45. Il revenait constamment à la certitude messianique de la délivrance d'Israël. Par contre, lorsqu'il a prophétisé le sort des nations païennes qui ont envahi Israël et Juda, il a annoncé un jugement divin sans miséricorde sur l'Égypte, chapitre 46, les Philistins, chapitre 47, Moab, Ammon, Édom, la Syrie, l'Arabie, la Perse, chapitre 48 et 49, et surtout la Chaldée, chapitre 50 à 51. Toutes ces nations ont connu à leur tour les châtiments divins. Et si alors le royaume de Babylone était au zénith de son pouvoir, le jour est venu où la prophétie de Jérémie s'est réalisée à la lettre. Cette cité qui faisait trembler le monde a été conquise en une nuit lors de l'invasion de Cyrus, général perse, en l'an 538. La conclusion du livre de Jérémie, chapitre 52, est d'un caractère essentiellement historique. C'est le récit de la conquête de Jérusalem qui peut servir d'introduction aux 5 chapitres du livre suivant intitulé « Les Lamentations de Jérémie ». Dans les plus anciens documents hébraïques, la prophétie de Jérémie et les Lamentations faisaient partie du même rouleau de papyrus et étaient considérés comme un seul livre. Si par la suite, les 5 chapitres des Lamentations ont été séparés des 52 chapitres prophétiques, c'était avant tout en raison de leur thème particulier et de leur forme littéraire. Chacun des 22 versets des chapitres 1, 2, 4 et 5 commence par une lettre différente selon l'ordre de l'alphabet hébreu. Et il en est de même des 66 versets du chapitre 3 où chaque groupe de 3 versets s'ouvre par une lettre hébraïque différente. C'est donc en utilisant la forme poétique que Jérémie a exprimé la grande douleur qui remplit son cœur. Il est resté le seul témoin du Seigneur lors du drame de la prise de Jérusalem. Devant la muraille détruite et le temple incendié, il ne peut que se lamenter sur Jérusalem, la cité de Sion, à laquelle s'attachent tant de promesses et de bénédictions. Les Chaldéens ont pillé la ville et emporté tout ce qui était précieux. Dieu aurait-il oublié ses promesses? Non, car il honore toujours ses engagements. Plus tard, Dieu interviendra et délivrera son peuple. Jérémie pleure et souffre pour Sion, et je ne peux m'empêcher de comparer sa souffrance à celle du Fils de Dieu qui, 6 siècles plus tard, pleurera aussi sur Jérusalem. La douleur de Jésus-Christ sera encore plus profonde que celle de Jérémie, car il souffrira de la part des hommes encore bien davantage que le prophète. Et lorsque nous lisons le cri d'angoisse de Jérémie,
« Vous tous qui passez ici, regardez et voyez s'il est une douleur pareille à ma douleur. »
Lamentations 1, 12. Nous ne pouvons que penser à Jésus, l'homme de douleur, qui, lui, a enduré pour nous le pire des supplices sur la colline de Golgotha, près de Jérusalem. Mais le salut de l'individu et l'espoir du monde sont nés des souffrances de la croix. S'il peut y avoir espérance pour Israël et pour Jérusalem en particulier, c'est aussi grâce au sacrifice de Christ. Des profondeurs des ténèbres a jailli la lumière. De la mort, Dieu a fait surgir la vie. C'est pourquoi il ne faut jamais perdre courage. Et même quand tout s'écroule, il faut faire confiance à Dieu, à qui appartient toujours le dernier mot. Gardez espoir et foi en votre Seigneur. C'est ce que Jérémie a fait dans ces terribles jours de la prise de Jérusalem. Écoutons ses paroles.
Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. C'est pourquoi je veux espérer en lui.
Lamentations 3, 22 à 24. Jérémie est sans doute le prophète biblique qui a le plus pleuré. Il a connu les privations, la prison, l'abandon de tous et l'exil forcé. Il n'a cependant jamais perdu espoir. Au creuset de l'épreuve, il a su fortifier la foi de ceux qui l'entouraient. Il a même envoyé un message de réconfort aux Juifs gémissant sous la servitude à Babylone.
« Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. »
Jérémie 29, 11. « Êtes-vous découragé ? Vous lamentez-vous comme Jérémie ? Les blessures de la vie vous ont-elles causé de profondes douleurs morales ? Vous sentez-vous comme emprisonné par les circonstances ? Votre âme est-elle comme en captivité ? Pensez-vous que personne ne vous comprend et que tous vous abandonnent ? Suivez l'exemple de Jérémie. Du sein de l'épreuve, élevez le regard de la foi vers le Seigneur qui est dans le ciel et qui vous dit en cet instant
« Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. »
Votre Dieu a formé des projets pour vous. Il sait ce qu'il vous faut. Il a un plan pour votre vie. Il ne veut pas votre malheur. Il veut vous rendre heureux. Il veut vous remplir d'espérance. Un grand serviteur de Dieu du siècle passé disait « Le chrétien voit mieux les choses lorsqu'il est à genoux que le philosophe lorsqu'il se tient sur la pointe des pieds. » Cessez donc de vous morfondre dans vos vains raisonnements. Mettez-vous à genoux et priez le Seigneur Jésus en lui remettant entièrement votre sort. Et vous verrez vos problèmes tout différemment. Vos obscurités deviendront en lui pleine clarté et le regard de la foi vous fera triompher dans l'adversité. De plus, les projets de paix que votre Sauveur a formés pour vous se réaliseront dès aujourd'hui et pour tout l'avenir qu'il vous réserve. Votre Dieu s'engage à votre égard.
Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.
Que le Seigneur vous bénisse richement.
Le dernier chant à notre programme nous sera apporté par l'artiste Gilles Bernard. Prophète.
Prophète, ne vois-tu rien venir ? Je vois des soldats couverts d'armes, tout prêts à mourir et à tuer. Partout je ne vois que des larmes, le monde semble s'y habituer. Je vois plus violent que la peste, la haine assombrir l'horizon. Les hommes se déchirent, se détestent, frontières, mitraillettes et prisons. L'amour qui n'a plus rien à faire vient de nous quitter à son tour. Sur terre, il était solitaire. L'amour a besoin de l'amour. Prophète, ne vois-tu rien encore ? Je vois des enfants sans leur mère, je vois des parents sans enfants. et des paysans sans leurs terres. Je vois des terres sans paysans. Je vois de grandes maisons vides et de grands vides dans les maisons. Des gens au visage si livide qu'ils ne chantent plus de chansons. Des hommes qui essaient de sourire, des femmes au regard si peureux, des vieux qui ne savent plus rire, des jeunes qui sont déjà vieux. Prophète, ne vois-tu rien là-haut? Je vois une grande lumière qui semble venir de très loin. Je vois un enfant et sa mère. Mon Dieu, qu'ils sont loin, qu'ils sont loin. Voici qu'ils s'approchent de la terre. L'enfant a grandi, je le vois. Il vient partager nos misères. Déjà, il apporte sa croix. Bientôt, sa divine colère chassera les démons pour toujours. Bientôt, reviendront sur la terre la paix, la pitié et l'amour. Prophète, quand va-t-il revenir?
Flash sur la Bible.
Vous écoutez la station qui se penche particulièrement sur votre édification spirituelle. Ebenezer International, votre radio.
Chers auditeurs, chères auditrices, nous sommes arrivés à la fin de ce programme qui était consacré au livre des prophètes Ésaïe et Jérémie. C'était un plaisir que de passer en votre compagnie ces précieuses minutes à l'étude de la parole de Dieu. Si ce programme vous a plu, si vous avez des commentaires, des suggestions, des questions, ou même des propositions de participation à une émission quelconque, soyez libre de nous contacter par cette adresse email francradio@podomatic.com, francradio@podomatic.com ou encore francradio@aol.com, francradio@aol.com. Comme je l'ai dit au début de ce programme, Flash sur la Bible est une courtoisie de la Société Bible Ouverte, qui est un site de l'association Parole Certaine, soutenue par l'Association des Églises Action Biblique de Suisse. Et pour en savoir plus, vous n'avez qu'à vous rendre sur leur site www.bible-ouverte.ch, www.bible-ouverte.ch. Et pour tout autre contact, www.bible-ouverte.ch/contact.html. J'aimerais remercier toute l'équipe de Bible Ouverte pour sa collaboration avec la radio chrétienne Ebenezer International et demande à Dieu de continuer de répandre sur eux toutes sortes de bénédictions. Je remercie également les artistes qui ont apporté leur musicale contribution à cette émission, tels que l'artiste québécois Luc Dumont, le sud-africain Wilmot Friedwigs, l'artiste Gilles Bernard, le trio Rofidal qui nous apportera le dernier morceau à la fin de l'émission, sans oublier la société CDE, et plus particulièrement Danny et Moïse Yotrel, à qui nous devons le générique de cette émission. Et à vous tous, fidèles auditeurs et auditrices, qui nous avez accordé votre attention depuis le début de l'émission jusqu'à cette dernière minute, nous demandons à notre Dieu de continuer de se servir de ses programmes pour vous aider à mieux comprendre sa parole, ainsi que sa volonté pour votre vie. Merci également de votre intérêt pour cette radio, et nous comptons sur vos prières en vue de son avancement. C'était pour vous servir au micro et à la réalisation, votre frère en Jésus-Christ, votre ami podcasteur, Franck Douistil, qui vous dit une fois de plus merci, que le Seigneur vous bénisse abondamment et au revoir. Vous venez d'écouter Flash sur la Bible, Flash sur la Bible, sur la radio chrétienne Ebenezer International. For Digital Gospel Channel, your station.
Oh, cette joie.